bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Saga Causeur. Je suis Adrien, votre hôte habituel, accompagné d'une équipe que vous commencez un peu à connaître, puisque je reçois les habitués que sont Iris de Small Things. Bonjour Iris.
Salut Adrien.
Alan de l'Info Tout Court. Bonjour Alan.
Salut Adrien.
Et c'est bon, j'ai mis mon site.
Mais putain, mais continue.
Et bien sûr, Tom de Small Things. Bonjour Tom.
Salut.
Mais j'ai aussi le plaisir de recevoir, bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un petit nouveau, déjà parce qu'il n'est pas petit, et ensuite parce qu'il a participé à des émissions bien avant mon temps,
il
me semble.
Tom, il était sur notre canapé pendant la saison 2 et 3.
En tout cas, on est ravis de l'avoir, c'est Stéphane des Plumes Asthmatiques. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tout le monde.
J'ai une question, tu l'as préparée cette vanne ou...
Laquelle?
ça sent le truc écrit quand même.
Pas du tout, j'écris rien du tout, moi, tu sais.
Ah, ça,
alors, pour ce nouvel épisode, on s'intéresse comme d'habitude, vous commencez à connaître la formule, au visionnage des deux dernières semaines, ici qu'on a concentré dans 5, 6, après beaucoup de gens qui ont assisté, série. Donc 4 nouvelles et 2 qui sont de retour. Bon, en fait, ça va être 3 et 2, puis la dernière, puisqu'ils veulent absolument en parler.
Qui a compris
trop de chiffres.
On commence avec les nouvelles séries et pour ouvrir le bal, je vous propose de parler de Kidding, série il me semble initiée par Michel Gondry avec le retour du sacro-saint Jim Carrey.
C'est réalisé par Michel Gondry.
Et je propose à Stéphane de commencer, de nous dire un peu ce que c'est et puis de voilà.
Je crois que c'était Tom qui devait parler, qui devait pitcher la série.
Il y a Tom qui va pitcher avant Stéphane.
Mais avant, Tom va pitcher. On me change de truc au dernier moment, excusez-moi, bon, Tom, tu coupes pas ça.
Alors, je vais dire Allociné, hein, parce que je vais pas me faire chier non plus.
aussi.
Présentateur d'une émission pour enfants, Jeff reste pour beaucoup de personnes Mr. Pickles, une véritable icône du petit écran. Confronté à un drame qui a provoqué l'éclatement de sa famille, il ne peut plus trouver refuge dans les contes de fées et se cacher indéfiniment derrière des marionnettes pour se sortir d'affaires. La réalité du monde peut se révéler bien cruelle pour quelqu'un qui incarne depuis si longtemps un modèle de gentillesse et de sagesse.
Oh, c'est beau.
Cette belle voix m'avait manqué.
On dirait du Allociné tellement c'est beau.
Alors Stéphane, est-ce que la série est-elle aussi un modèle de gentillesse et de sagesse?
Oh.
Modèle de gentillesse et de sagesse. Non.
Ça va être
carré.
Non, mais la série est très bien. C'est très... L'ambiance est lourde. Ça parle de deuil. Et en plus, d'accord, c'est le deuil d'un enfant, donc c'est quand même assez costaud à encaisser. Et c'est juste beau, quoi. Enfin, c'est très beau. Jim Carrey était juste extraordinaire. Voilà, il a une coupe de cheveux qui m'horripile, mais ça, ouais, c'est voilà, vrai. C'est très bien. Le casting des seconds rôles, franchement, il n'y a rien à redire. Il y a Judy Greer dedans, donc voilà, la série elle avait réussi son coup d'emblée. Et tout est très bien. Il y a 3 épisodes qui ont été diffusés pour l'instant. Et franchement, c'est juste très émouvant et ça me donne envie de pleurer, quoi. Enfin, ça va être une phrase que je risque de répéter souvent.
Ah oui, mais toi, tu pleures beaucoup, toi.
Voilà, je pleure beaucoup. Et ben, voilà.
Même sur CBS, tu pleures. Donc.
Et ben, ça, c'est très particulier.
C'est sur quelle chaîne que c'est diffusé?
Showtime,
d'accord.
Showtime aux États-Unis, Canal Plus en France. Et voilà, et c'est très joli. Franchement, et c'est très, très émouvant. Je ne vois pas quoi dire de plus, parce qu'après, j'ai un petit reproche à faire à la série quand même.
Vas-y.
Gondry, Michel Gondry. Alors, j'adore Michel Gondry, mais je ne comprends pas ce qu'il allait foutre là-dedans. On voit pas. Enfin, de temps en temps, on arrive à retrouver sa patte de réalisateur, mais après, c'est juste, on se demande où c'est qu'il est Gondry, quoi. Pourquoi avoir
où c'est qu'il est Gondry.
Mais où est-il, quoi? Franchement, moi, j'ai trouvé ça un chouïa décevant là-dessus.
Peut-être pour avoir un nom simplement, non?
C'est frustrant. Tu viens. Moi, je suis venu aussi en partie pour Gondry et retrouver le duo Gondry Carré. Et j'ai rien, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'était
Il y a un petit quelque chose, quand même. C'est le Gondry, pas le Gondry qu'on a connu avant. C'est le Gondry de maintenant, avec Microbe et je sais plus quoi, là. Qu'il a fait son dernier film.
Microbe et Gazoil.
Voilà, plastiquement, c'est toujours propre, mais c'est pas aussi déjanté qu'avant, quoi. C'est juste des petites, des petites touches. Mais ouais, je rejoins un peu Stéphane, mais moi, le problème, alors que j'adore Jim Carrey, C'est très bien de le retrouver, surtout pour une série, parce qu'on l'avait, franchement, on l'avait plus vu depuis très longtemps.
On l'avait perdu même. Hein.
Mais oui, et puis même, il s'est perdu lui-même. Et le problème, c'est que le personnage, c'est lui, quoi. Et j'ai du mal à voir un Jim Carrey dépressif, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est lui et qu'il n'arrive pas à se sortir de ça. Et je le vois là comme ça. Et pour moi, ça m'énerve, quoi.
Surtout que je pense que ça doit être un truc très cathartique pour lui, étant donné qu'il a perdu sa compagne.
C'est vrai, ouais.
Alors, c'est le deuil d'un enfant. Lui, il a perdu sa compagne, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Comme tu dis, en fait, c'est lui, quoi. Mm. On a du mal à distinguer, je pense, le personnage de l'acteur, et c'est un peu perturbant aussi.
Ouais.
Moi, je trouve pas ça. Enfin, du coup, je suis tout à fait d'accord que c'est Jim Carrey. Enfin, qu'il n'y a pas d'autres personnages, c'est lui et c'est tout. Mais moi, je trouve pas ça perturbant parce que justement, je trouve que vis-à-vis de ça, il arrive à exprimer peut-être ce qu'il ne peut pas exprimer au quotidien.
Oui.
Et honnêtement, c'est un mec que j'ai tellement peur qu'un jour il fasse un peu pareil que Robbie Williams. Que honnêtement, si cette série a le succès qu'elle semble avoir. Et que ça lui permet, lui, d'exorciser un petit peu ce clown triste, en fait, finalement, qu'il porte depuis déjà des années. Moi, je veux dire, mais je valide à 100%. Et je préfère qu'il nous parle un petit peu, justement, de son deuil, de sa dépression vis-à-vis de ça, qu'un jour, il commette quelque chose irréparable. Et par rapport à Gondry, moi, je considère qu'effectivement, je sais le même défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de Gondry pour moi dans cette mise en scène. Mais pour moi, la différence, c'est justement là, c'est parce que, à l'époque, par exemple, de Eternal Sunshine, c'était un film de Gondry avec d'excellents acteurs. Là, c'est vraiment une autobiographie de Jim Carrey. Gondry n'est qu'un exécutant par rapport à son personnage.
Les autres n'ont pas leur place, finalement. Ça parle vraiment de Carrey.
Après, si, parce que les personnages ont des histoires à côté. Mais on va pas se mentir, on regarde Kidding, c'est pour Jim Carrey. Enfin, y a tout le reste est quand même assez. Tu retrouverais ça dans d'autres séries.
Après, ça reste très gris quand même.
Ouais, voilà. Mais il n'y a eu que 3 épisodes. Alors, il faut espérer qu'à un moment donné, il arrive à s'écarter quand même de son sujet de son personnage principal pour leur donner de l'espace aux personnages secondaires. Judy Greer mérite d'avoir un peu plus d'exposition. Et Frank Langella, qui joue le père de Jim Carrey, il mérite mieux que ce qu'il a pour l'instant en 3 épisodes. Il faut juste espérer que la série puisse trouver son rythme. Bon, je sais pas, je crois qu'il n'y a que 10 épisodes en plus dans la saison 1.
Ouais, je pense que c'est ça.
Il va falloir d'accélérer la cadence, mais j'ai foi, quoi.
Est-ce que ce n'est pas un défaut qu'une série soit portée par une personne dont on connaît finalement sa vie, puisque voilà, on nous dit Jim Carrey, il a perdu sa compagne, tout ça, ça résonne avec son histoire personnelle. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour nous qui voyons cette série?
En fait, ça va être un inconvénient si tu n'aimes pas Jim Carrey. Et si tu aimes Jim Carrey, par contre, pour moi, enfin moi qui justement adore Jim Carrey, moi ça me choque pas du tout.
Ça dépend de la personne.
Voilà, ça dépend parce
aussi,
que
a l'air de dire Tom.
D'accord. Tom, ça l'a gêné que ce soit personne. Bon, ce sera un débat plus tard.
J'ai plus raison qu'Alan, c'est normal.
Voilà, c'est ça, c'est la conclusion. C'est donc Kidding et ça passe donc sur Showtime. Si nous, en fait, ça changera pour nous. De toute façon.
Et si c'est sur Canal Plus, diffusé. Ouais.
Le premier épisode était gratuit, mais je ne sais pas s'il est encore gratuit d'ailleurs.
Voilà.
Et attends, pardon, j'aimerais juste noter que par contre, ce qui est extrêmement. Qui change par rapport à d'autres séries, justement un peu doux amer comme ça. C'est que par contre, ça ne dure qu'une demi-heure chaque épisode.
Et je pense que c'est suffisant. Hein.
Non, mais ouais, oui,
ça,
non, mais
on en parlera de toute façon, je pense, dans
pas mal.
Émission qui arrive très bientôt.
D'accord.
Donc, autre série, je dirais, d'acteur ou plutôt d'actrice, et ça, c'est Tom qui va pouvoir nous en parler puisque c'est son fan numéro 1, c'est Sorry for Your Loss, avec notamment Elisabeth Olsen. Explique-nous un peu ce que c'est.
Oui, on reste dans le deuil encore. Hein. C'est très fun, cette émission.
J'aime bien.
Alors,
on prononce pas le GH.
Lee doit profondément modifier ses relations avec ses proches lorsque son mari meurt soudainement. Dans ce processus, elle décide notamment de se réconcilier avec son passé. Alors, c'est un résumé de merde, hein, je l'avais pas vu avant.
Ah bon? J'ai pas l'impression que ça colle vraiment avec la série de regard.
Oui, alors j'aurais peut-être dû le lire avant. Merci à Allociné.
Moi ça colle, mais je la regarde pas.
Alors en fait, Lee a perdu son mari depuis 3 mois et demi. On ne sait pas comment, dans quelles circonstances. Et on la voit donc en thérapie de groupe. Et donc elle essaie de s'en sortir. Et après 3 mois, elle n'y arrive toujours pas. Elle vit chez sa mère et sa sœur. Alors, je ne sais pas si sa sœur est adoptée, on ne le dit pas, mais vu qu'elle est asiatique, je pense que si.
Ben, pour l'instant, moi j'en ai vu 5, c'est toujours pas expliqué, mais bon,
Bah
après
oui,
c'est
c'est
pas un
ça.
détail quoi.
Et sa
Voilà.
mère est très portée sur tout ce qui est, on va dire, chakra, yoga et tout ça.
Ariel
New Age.
Dombal dans. Ouais, voilà,
Voilà.
c'est
Peut-être même tantrisme, on ne sait pas. Mais,
ça.
et donc voilà, c'est un long processus, comme une série qui est sur le deuil, c'est un peu dur de se dire est-ce qu'on va baser toute la série sur ça? Est-ce qu'une série sur le deuil doit durer? Est-ce que le sujet,
Et
c'est
plus
est-ce qu'on
durer.
doit faire son deuil? Est-ce qu'on doit passer à, enfin, à autre chose? C'est un peu délicat, mais alors c'est sur Facebook Watch, c'est disponible donc
Voilà.
gratuitement. Il y a des sous-titres hein, sur l'appli, sur l'application. Il y a 5 épisodes qui sont sortis à l'heure où on vous.
6.
Ah, 6?
Oui,
Ah oui,
ils
4
en ont
plus
sorti
2,
deux
c'est
cette
vrai. Oui,
semaine.
4
Ouais.
plus 2, oui. Et en fait, eh ben, c'est comme Kidding, c'est-à-dire que l'ambiance est assez plombante. Hein, on ne se marre pas à tous les épisodes, c'est sûr. Elisabeth Olsen est plutôt juste, comme tous les acteurs, sont vraiment très très bien. On sent vraiment qu'il y a quelque chose entre tous. Il y a Kelly Marie Tran qui joue Rose dans Star Wars, qui
Ouais.
est là.
Qui joue la
Et
sœur de Marie, enfin d'Elisabeth Olsen.
voilà, ouais. Et ben, en fait, c'est doux, c'est enfin, c'est doux, c'est simple, c'est sincère. Il n'y a pas de grosse musique, il n'y a pas de.
Et alors, tu parles de musique, mais en effet, je suis d'accord avec toi. Je suis même impressionné. Il n'y a quasiment pas de musique. Et c'est très perturbant d'ailleurs, parce que ça te fait focaliser sur l'émotion et sur ce
Ouais.
qu'elle, elle
Ouais,
ressent vraiment.
ça
Et
rend
ça.
souvent les choses assez puissantes hein, quand on y pense.
Oui,
Voilà.
ça me fait penser à l'épisode de
Une fille.
Buffy contre Malak. Quand elle perd sa mère, ça m'avait vraiment, vraiment marqué cet épisode. Il y a zéro musique. Et du coup, tu te prends dans la face le deuil, en fait. J'imagine que ça joue sur le même principe avec Sorry for Your Loss.
Ouais, et c'est vrai que c'est assez. Bah, voilà, on reste quand même concentré sur elle pendant 2-3 épisodes. Il y a quand même la sœur, la mère et le frère de son mari décédé qui sont là avec, voilà, pas de leurs petites histoires, mais c'est vraiment très lié sur le deuil. On suit aussi en flashback, enfin, c'est pas vraiment des flashbacks, c'est plutôt des souvenirs de Lee avec son mari. Et on apprend un peu, voilà, comment il est. Comme Jack dans This Is Us, ça semble être un mec parfait. Donc, voilà,
Ouais.
pas l'identification, mais on va dire comment on forme le personnage, c'est-à-dire on idéalise un peu le mari, quoi. Et on apprend quand même qu'au-delà du deuil, on doit aussi vivre avec, enfin, on suit la dépression, en fait. C'est une série sur la dépression, parce que le mari est dépressif. Et donc, voilà, ça te plombe encore un peu plus. Et en fait, il y
D'accord.
a sur les 6
Ça donne
épisodes,
vachement envie.
donc
Ouais, c'est
c'est
ça. J'espère que
six
tu fais
fois
pas
une
de nous
demi-heure pour
vendre
l'instant. Et
autrement.
en fait, il y a un mini fil rouge, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle a le téléphone de son mari et elle n'arrive pas à faire le code pour déverrouiller parce qu'elle aimerait savoir un peu ce qui s'est passé. Comme à peu près tout le monde, elle aimerait bien savoir
Ouais.
prendre le téléphone de
Oui,
quelqu'un,
mais
savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
t'occultes quand même un certain, enfin,
Mais dis-nous,
une
Stéphane.
partie de l'intrigue qui est quand même, il y a une sorte de mini-mystère. Parce que en effet, on se rend compte que il y a déjà d'une part le téléphone, mais il n'y a pas par exemple, son mari, elle découvre que son mari cachait une carte bleue dans le freezer du congélateur, quoi.
Ouais,
Et
bon, ça, oui.
c'est là où elle commence à se dire qu'en effet, avec aussi ce que lui dit son beau-frère, qu'en fait, elle se rend compte qu'elle ne connaissait pas vraiment totalement son mari. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore tout, mais il risque d'y avoir à un moment donné des découvertes qui risquent de la chambouler.
Ouais.
Profondément. Et moi, je trouve que c'est juste ça qui fait très artificiel. J'aurais préféré qu'en effet, il n'y ait pas ça, quoi.
Le
Qu'elle
reste, ça
ait.
fonctionne, sinon?
Ah bah tu sens déjà qu'ils savent où ils vont à peu près parce
Oui,
que à la fin de
clairement.
l'épisode 5, le générique est à la toute fin de l'épisode. Donc tu sens qu'il y a une sorte d'avant et après cet épisode-là. Je pense que tu sais de quoi je parle, Stéphane. Cet épisode-là, c'est sur voilà, les messages.
Les messages, ouais.
Et là, on passe à autre chose parce que l'épisode d'après, c'est un peu plus joyeux. Et c'est là la question que tu te poses, c'est est-ce que toi, quand tu fais ton deuil et que voilà, tu l'as fait, est-ce que les autres doivent le faire en même temps que toi? Parce que tout le monde va
Ouais.
ils vont t'en parler obligatoirement, quoi. Donc à partir de quand tu dois plus en parler, quoi. Mais
D'ailleurs, ce que j'ai
après.
trouvé très bien dans la série, c'est que déjà dès le départ, il y a le rôle de la mère et de la sœur trouvent leur place.
Oui,
Et
c'est
on
vrai, ouais.
parle aussi du deuil, vis-à-vis de ces personnes-là, pas que du deuil de la femme qui perd son mari, mais aussi de la belle-sœur qui, comment doit-elle gérer son deuil vis-à-vis de sa sœur, etc. Et de la mère aussi qui a perdu son beau-fils. Et c'est très particulier. Je crois que c'est l'une des rares fois où on s'intéresse aux personnes qui sont touchées, mais aux alentours, pas directement. Et ouais. Je trouve ça très bien fait d'ailleurs.
Et ça fonctionne un peu comme This Is Us au niveau du flashback, enfin de la construction, c'est-à-dire que tu as des morceaux de flashback, tu ne sais pas trop ce qui se passe, et dans les épisodes d'après, tu comprends, parce que tu revois le flashback un peu plus long, notamment avec le chien, par exemple, sans révéler le... Et non, je trouve que c'est d'une simplicité exemplaire, c'est très juste, les acteurs sont
c'est
très bien.
C'est très très bien écrit, c'est franchement très bien écrit.
Elisabeth Olsen est magnifique, de toute façon, donc voilà, c'est...
Ouais, c'est très objectif.
Ça s'appelle Sorry for Your Loss et c'est disponible et regardable donc visiblement sur Facebook Watch.
Alors, enfin, juste dire un petit truc sur la plateforme Facebook Watch.
Ouais, vas-y, dis-nous.
Alors, moi je la connaissais pas avant. Non, oui, je la connaissais pas avant. Je la trouve très chiante. Mais parce qu'on te balance des pubs en plein milieu d'un épisode n'importe quand.
Comme là-bas. Hein.
Très bonne question parce que moi j'ai pas de pub.
Tu le regardes sur téléphone ou sur
l'application télé. Justement, t'as des fondus au noir et je me dis, mais pourquoi il y a des fondus au noir vu qu'il n'y a pas de pub?
Moi je regarde sur la page Facebook de la série.
Vous nous direz, les spectateurs, si vous avez ou non des pubs.
Et c'est mal foutu aussi parce qu'ils te mettent les épisodes dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que tu commences par le 6.
Il y a même des images qui te spoilent un peu ce qui se passe, donc c'est chiant.
Next épisode, c'est l'épisode d'avant, donc c'est un peu con.
D'accord. Donc faites gaffe à bien cliquer sur les bons épisodes. Enfin, dernière grosse nouveauté dont on voulait parler, c'est Maniac. Alors avant de laisser Tom nous pitcher la série, comme il sait si bien le faire, avec son autre partenaire officiel finalement Allociné, quasiment, d'abord une question pour vous tous. Qui a réussi à voir ça en entier?
Il m'en reste 2.
Pas moi.
Il m'en reste 6.
Il m'en reste, je sais pas, il y en a combien?
J'ai entendu 10. Une petite voix.
Moi.
Voilà, Alan a réussi à voir ça en entier. Bravo. Je vais d'abord donner la parole à Tom qui va pouvoir nous pitcher un peu la série avant que Iris puisse nous dire un peu ce qu'elle en pense.
Série Netflix qui est arrivée il y a peu, deux inconnus en difficulté se rencontrent pendant un essai clinique hallucinant mené par un médecin qui a des problèmes avec sa mère et un ordinateur émotif. Adapté de la série norvégienne Maniac.
Avec Emma Stone et Jonah Hill.
Et
je disais avec Emma Stone et Jonah Hill.
Oui, mais et Justine Theroux.
Justine Theroux.
Et je sais, oui, sans doute, oui, ça je le connais pas.
Et Sally Field, on va pas oublier Sally Field là.
Et Sally Field. Iris.
Oui. J'ai voulu regarder parce que le pitch m'intéressait vachement. Je trouvais ça cool d'avoir des essais cliniques, un truc un peu psychédélique, tout ça. Et j'ai vu 2 épisodes laborieusement et je me suis fait méga chier. Non, alors, à savoir que souvent, on me fait la remarque « Ouais, tu t'es fait chier parce que c'est lent, mais c'est bien les trucs lents, tout ça. » J'aime regarder des choses lentes. Dernièrement, j'ai vu « Coin Coin » et « Les Inhumains », c'est très lent et je me suis éclatée. The Fall, c'est ultra lent et je m'éclate. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est pas recevable comme argument. Mais en l'occurrence, l'acteur, je sais plus quel est le nom de son personnage, il joue Jonah Hill. Il joue un personnage un peu halluciné qui entend des voix et qui a l'air d'y croire manifestement à ces voix. Il n'y a aucun moyen de s'attacher d'une façon ou d'une autre à ce personnage. Il est toujours hagard, c'est assez insupportable. La nana, pardon pour la vulgarité, mais c'est une vraie pétasse. Donc pareil, on a un peu de mal à avoir envie de les suivre parce que on ne s'attache pas du tout. Le premier épisode est consacré donc à lui, qui on pose son personnage pour ensuite arriver à ce fameux essai clinique. Et le deuxième épisode, on revient en arrière et on a elle, qui va aussi arriver à l'essai clinique pour d'autres raisons. Mais il s'avère qu'elle a aussi un problème, elle aussi, finalement. Et j'ai pas pu aller plus loin parce que c'est con, parce qu'on arrivait à l'essai clinique, la partie qui pouvait être à peu près intéressante, mais je peux pas. Je peux pas, je me suis fait chier, j'ai accroché à personne. Donc, bah voilà. Donc, moi, je n'irai pas jusqu'au bout, je pense. Je vais m'arrêter là. Mais j'ai pas aimé du tout, vraiment.
Voilà. Bravo.
Merci. Bon, Tom, t'as tenu combien d'épisodes?
Alors, très bonne question, parce que ah bon, je vais peut-être me faire huer, mais j'ai fait du fast watching. Donc, j'ai avancé dans les épisodes.
Je ne hue pas, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. C'est comme ceux qui sautent des chapitres dans des bouquins. Je ne sais pas faire ça.
Là, c'était pour voir si ça s'améliorait et tout, parce que le premier épisode, donc c'est sur lui, après c'est sur elle, mais elle, je m'en fous. Parce que j'ai pas envie de savoir en fait leur background. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Voilà. Et après, j'ai vu la première expérience.
C'est parce que tu sais que tu vas pas vraiment regarder la série, et du coup, tu veux juste savoir ce que ça devient après, quoi.
Et j'ai vu donc après la première expérience, je fais OK, tout ça pourquoi, je ne sais pas. Après, on commence, enfin, ça ouvre sur un autre épisode, et je me dis, alors, c'est là que je me suis dit, est-ce que je regarde ou pas ? Je me dis, si ça me raconte rien, enfin, c'est que il va y avoir de la curiosité à regarder, mais si ça me raconte rien, donc je dis, bon, au bout d'un moment, bon, voilà, stop. Voilà.
Ah, voilà, pareil.
Voilà. Stéphane, combien d'épisodes ?
J'en ai regardé 8. Je vais quand même aller jusqu'au bout, parce que bon, ça serait dommage de ne pas
épisodes de la fin. Voilà, oui. Maintenant que tu es là, c'est quand même bête.
Mais j'ai eu de gros problèmes. Moi, c'est des problèmes de rythme et d'écriture qui me dérangent. Enfin, des épisodes qui peuvent fluctuer entre 22 minutes et 47 minutes. Enfin, au bout d'un moment, non merci, quoi. Et en fait, je suis resté parce que, donc déjà, d'un, j'adore Emma Stone, donc voilà. Il y a Justin Theroux, donc je suis resté. Et il y a Sally Field. Et il y avait aussi Cary Fukunaga en réalisateur.
C'est vrai. Ah non, mais c'est là, très beau, plastiquement.
Et là, franchement, je me dis, mais ce mec-là, que s'est-il passé, quoi ? Sa réalisation est juste. Enfin, moi, je la trouve juste. Les décors sont très bien.
Oui.
L'atmosphère est très bien. Mais la réalisation est tellement plate. Mais c'est tellement plat. Mais enfin, moi, ça n'apporte strictement rien. Donc, c'est une grosse déception. Je vais pas dire que j'en attendais beaucoup parce que, comme toute série Netflix, j'en attends rien. Je finis déçu, quoi. Enfin, ça raconte des choses. Mais c'est long à venir, quoi. Il te faut attendre le sixième ou le septième pour que tout prenne un petit sens, et il t'aurait plus que quatre épisodes avant la fin, donc ça n'a aucun intérêt, quoi.
D'ailleurs, oui, pour rebondir là-dessus, puisque c'est ma spécialité, le premier épisode, en fait, 1 et 2, je pense que ça aurait pu être condensé en un seul.
Bien sûr, mais comme tout,
Là, franchement, c'était. Surtout, particulièrement le premier, était long. Quoi,
surtout qu'il faut avouer que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jonah Hill, en dépressif. Ah, non, en plus, il n'est pas dépressif, il est schizophrène. Mais,
halluciné, ce
mais
gars.
Mais il est juste chiant à mourir, quoi.
Mais oui.
Bon, avant de donner la parole à Alan, voilà, qui va essayer d'en dire peut-être un peu plus de bien, je dis mon avis rapidement. Bon, moi, j'ai tenu 4 épisodes, hein, j'ai pas pu aller au-delà. Quand même 4. Hein. Mais alors. Bon. Il y a quand même un point qu'on a. Bon, Jonah Hill et tout ça, je vais pas revenir. Moi, Jonah Hill, je pourrais le voir dans n'importe quelle connerie, j'adorerais. Donc là, franchement, c'est lui qui m'a permis de tenir épisode après épisode jusqu'à ce que je me dise non, c'est juste pas possible. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé quand même, c'est la prétention. Ultra prétentieux.
Oh. Moi, je trouve ça beaucoup moins prétentieux que ce que ça aurait pu être.
Ah, pour moi, c'est bon là, je vais peut-être en faire hurler certains, mais c'est vraiment du Légion pour moi, quoi.
C'est moins prétentieux que Légion.
Ah non, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment. Alors, il va nous faire différents formats d'épisodes pour bien nous montrer qu'il sait faire autre chose que des formats de 45 minutes. Alors, dans toute la saison, t'as des épisodes qui durent une heure, d'autres qui durent 20 minutes. Bon, déjà, je veux pas. Tu vois, ça fait vraiment pour faire genre, comme les épisodes sont un peu fragmentés, les gens sont pas bien dedans, on va aussi fragmenter la durée, tu vois. Pour moi, il y a vraiment un côté.
C'est surfait aussi,
c'est surfait, mais le format, c'est vraiment un exemple, mais c'est pas que ça, je trouve qu'il y a rien qui va quand même, la mise en scène. Je trouve pas ça particulièrement beau. Bon, oui, évidemment, l'image est léchée et tout ça, encore heureux, enfin, je veux dire.
C'est ça.
Encore heureux que ce soit pas crayonneux et que ce soit pas tourné. Encore heureux que ce soit pas tourné au Samsung. Enfin, je veux dire.
Non, mais même à l'iPhone, c'est bien fait.
Voilà, c'est produit par l'iPhone. Si SPI, Emma Stone et Jonah Hill, encore heureux que l'image est jolie. Mais qu'est-ce que c'est plat ! Et ça raconte rien du tout. C'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire que quand tu tiens 4 épisodes, au 4ème, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui. Mais quand est-ce que ça commence, quoi ?
Mais ça commence après. C'est ça que vous avez pas compris.
Non, mais d'accord, mais moi je me tape.
J'appelle pas ça une série, moi, monsieur.
Non, bah non, oui.
Oui, mais ça, on s'en fout, c'est une mini.
Moi, déjà, d'habitude, je m'arrête au pilote, ça me fait pas, alors là, tu vois.
Non, non, Stéphane, je mets une pièce que la mini-série va se transformer à saison 2, tiens.
Non, non.
Non, ils vont nous faire un
avec
film.
Deux nouveaux acteurs, avec deux nouveaux acteurs, un trou détective.
Fukunaga, il va nous faire un film. Il va dire, oh, bah, après tout, c'est pareil, il va nous faire un film de 2 heures. En fait, à la fin, on va prendre une demi-heure parce qu'il a changé le format dans
les
moments.
Oui, mais comme les Coen, quoi. Enfin,
bon, non, vraiment, non, c'est juste pas possible tellement ça raconte rien. C'est une vraie déception parce que, voilà, j'aime Emma Stone et Jonah Hill comme tout le monde, mais là, c'est vrai que les voir jouer ces espèces de personnages caricaturaux.
En fait, ça raconte quelque chose, mais pas sur les personnages de Owen et de Hannah.
Bah oui,
mais c'est sur le personnage entre Justin Theroux et Sally Field, la relation entre la mère et le fils, et le robot. Enfin, le robot.
Mais t'as été dans les épisodes où il n'y a même pas ça dans ceux que j'ai vus. Alors, tu vois.
Non, mais c'est ça. Les personnages sont archi caricaturaux. J'adore Jonah Hill, mais la manière dont il joue, cette espèce de type qui est schizophrène, et on voit bien qu'il a des problèmes dans sa tête. Oh, j'ai envie de lui mettre une baffe, quoi. Je veux dire,
mais oui,
la manière dont il joue, c'est vraiment l'idée que le cinéma, j'allais dire américain, se fait du, je dis cinéma exprès, hein,
au sens large,
voilà, du schizophrène. C'est vraiment le type de loin, oui, tu peux voir qu'il y a un problème.
C'est pas travaillé, quoi. Oui,
c'est toujours montré pareil, quoi. Là, c'est vraiment, on entre dans la. Alors Emma Stone qui fait ses grands yeux, bah, évidemment, elle sait faire ses grands yeux, mais bon. Le personnage, bah, c'est mal écrit et surtout, voilà, c'est pareil, c'est caricatural, c'est vraiment. Oh, elle est vraiment agressive, quoi.
Voilà, quand il n'y a pas Ryan Gosling, il n'y a plus personne.
Voilà, non, mais par contre, ce que tu critiques là sur Emma Stone, mais en fait, ça colle plus ou moins parfaitement avec le diagnostic qu'on lui fait de sa, sa maladie.
Évidemment, j'ose espérer que c'est fait exprès.
Elle a la maladie des gros yeux.
Non, mais voilà, non. On ne va pas faire nos divisions, mais c'est vrai que là, la manière dont il l'a fait jouer, moi, j'ai quand même eu des gros problèmes, quoi. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, moi je recommande.
C'est une question bête, mais je pense que Stéphane l'a vu parce que c'était à. Ah non, c'était à Monte Carlo, c'était pas à Série Mania. Mais la série norvégienne, elle a pas la même gueule.
Ah, je sais pas, je pense pas, non.
Du coup, moi je suis très curieuse et à mon avis, ce sera totalement différent, franchement.
Allucina a ressorti un trailer pour faire des articles dessus, mais honnêtement, je pense pas que c'est vraiment la même gueule, non.
Non, je pense pas non plus.
Bon, c'est créé par Patrick Somerville qui a écrit sur Leftovers.
Ouais, j'ai été choqué quand j'ai vu ça tout à l'heure.
Bon, Alan, dis-nous un petit peu ce que tu as réussi à sauver quand même.
Bah, non, moi je vais juste revenir sur un truc très simple en fait. C'est pas pour vous gâcher. Hein. Honnêtement, quand j'ai écouté tous vos avis, et autant celui de Stéphane, bah ouais, il peut donner son avis, il en avait 10, mais. Quand je vois que vous la clashez, alors vous en avez vu deux, honnêtement, j'ai un peu de mal, quoi.
Après,
si on n'a pas tenu, c'est sa faute, hein, c'est pas la loi.
C'est le problème de la série, voilà, c'est ça. À un moment donné, si on se fait chier.
Je peux comprendre qu'une série, tu n'aimes pas le début, tu arrêtes, c'est pas le. J'ai déjà fait aussi. Mais de la façon dont vous en parlez, enfin, je veux dire, tu vois,
explique
par exemple.
On a arrêté.
Non, mais tu vois, tu as Adrien qui me dit qu'elle est prétentieuse. Je suis du même avis. Mais j'ai vu toute la série, enfin je veux dire.
J'ai pas eu besoin de voir tout pour le voir, c'est vraiment qu'elle est présente.
C'est ça, voilà.
Ouais, mais
ça.
Le problème c'est que.
Tu vas dans mon sens, la limite.
Oui, non, mais je suis désolé, mais non, parce que. Il y a de la prétention et je trouve encore plus tard que ce que t'as vu toi. C'est juste que vous avez des avis. Moi, enfin, je suis bête, hein, mais quand j'ai pas vu entièrement une série, je peux faire des hypothèses ou être moins violent. Je trouve, disons que je trouve vachement virulent pour des mecs qui n'ont pas vu la série, mais après.
C'est juste pour ce qu'on a vu, là on parle évidemment de ce qu'on a vu, ça se trouve c'est génial à l'épisode 6. Hein.
Ah oui,
moi tout ce que j'ai vu, c'est ce que j'en ai dit, quoi. C'est de ce que j'ai vu. Je dis pas maniaque et comme ça, je dis ce que j'ai vu de maniaque c'était ça, et c'est pour ça que j'ai arrêté. Je sors rarement de la salle de ciné, mais c'est pareil pour certains films, il y a un moment, je dis stop, tu vois, et voilà, évidemment.
Dans Journal Animals!
Et puis aussi,
je ne noterai pas dans les bilans, si tu veux savoir.
Série, elle est là aussi pour nous accrocher au moins dès le premier épisode, sinon le deuxième. Si là,
c'est
on
ça,
est...
là, épisode 4, enfin, problème, hein.
Non, moi, mais je dis pas le contraire, Iris. Je dis juste que dans la manière dont vous parlez de la série, on pourrait penser que vous jugez toute la série.
C'est vraiment pour ça, Alan, au début, que je demande à chaque fois à tout le monde combien d'épisodes ils ont vu pour que ce soit très clair de ce qu'on en est.
C'est juste dans. Je te dis, moi, en tant que. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure.
Dis-nous, alors, toi qui as.
Moi, du coup, par rapport à Maniac, donc, j'ai vu effectivement toute la série parce que j'étais un peu comme Stéphane, très curieux justement de savoir. Où ça allait nous emmener, puisque j'avais l'impression que ça nous emmenait pas grand chose, et ça a été mine de rien, assez le cas, puisqu'effectivement, disons que la série a ce double visage d'être assez fascinante, puisque tout simplement, je trouve que la série est assez forte pour mélanger les genres. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment pas pu le voir, mais du coup, Stéphane peut s'en faire une idée. C'est-à-dire qu'on a un mélange de genres quand on va dans leur psyché qui est assez fascinant, puisque c'est traité toujours de manière pas originale, mais avec une fluidité qui est assez unique en son genre. C'est honnêtement, moi, manière que j'ai vu la série, je n'ai pas aimé. Je ne peux pas dire que j'ai aimé, mais j'ai été assez fasciné parce que j'avais j'avais conscience d'assister à quelque chose que je ne vois pas ailleurs et que je ne reverrai tellement pas. Bien ou en mal, mais disons qu'il y a un certain artistiquement, que ce soit d'ailleurs oui. C'est plus narratif que visuel, mais il y a un vrai parti pris artistique qui fait que j'ai l'impression de regarder presque un...
Oui, c'est pas de l'eau tiède, ça, je suis d'accord avec toi.
C'est pas de l'eau tiède.
Pour le coup, j'ai l'impression d'assister à une forme d'art, parce que pour le coup, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'art, où on va avoir ceux qui vont comprendre quelque chose et qui ne comprendront pas la même chose. Et en parallèle, et là où je suis, de toute façon, je ne suis pas du tout... voilà, ça, c'est les points positifs, c'est que ça pâte. Après, voilà, négativement parlant, effectivement, alors que Emma Stone est très bien écrite, et ça, on voit plus loin dans la série, c'est qu'elle est vachement mieux écrite qu'effectivement Jonah Hill, qui lui tourne très vite en rond, mais pas par rapport à lui, mais par rapport à l'écriture de son personnage, qui trouve vite ses bases. Contrairement à Stéphane, je ne suis pas du tout fan du personnage de Justine Theroux, que je trouve toujours en surjeu total, j'en peux plus.
Mais c'est là aussi, c'est un parti pris, et moi je trouve ça d'ailleurs.
Oui, je sens que c'est un parti pris, mais c'est vrai que moi, voilà, j'ai pas du tout adhéré à son personnage. Mais parce que j'ai l'impression que Justine Theroux est dans le surjeu, enfin, à part évidemment dans un acteur, mais je trouve que quand on le place comme ça en passage secondaire, en tout cas surtout chez Netflix, il est toujours en surjeu. Parce que je me souviens d'ailleurs de Mute, où pareil, il était quand même un peu en surjeu, et bon, ça devient un peu chiant. Mais disons voilà, je trouve que c'est une série effectivement qui n'est pas faite pour le public, dans le sens que c'est une série, j'ai l'impression que c'est Fukunaga et Somerville qui se sont tapés un délire tous les deux avec un gros casting, et ils en ont rien à carrer du public, et ça se voit puisque c'est à la fois donc effectivement artistiquement assez prenant, mais par contre effectivement c'est chiant parce que ça raconte rien, c'est lent, et clairement moi j'ai suivi jusqu'au bout parce que je voulais voir où était la conclusion de cette chose. Et en fait, arrivé à la conclusion, j'ai fait « mais en fait, non, enfin, tu me sers, ça ne sert à rien ». En fait, j'ai juste l'impression que c'est une... Ça aurait fait un film curieux, enfin, un peu une sorte d'ovni, ça aurait pu faire un ovni cinématographique. Là, c'est un ovni télévisuel, mais le problème d'un ovni télévisuel, c'est que tu t'en tapes 10 épisodes X temps et que ça finit par avoir raison de toi, quoi, tout simplement.
Et c'est vrai que... bien vu. Mais la bande-annonce, j'ai vu qu'en fait, y a chaque épisode est sur un genre de cinéma, c'est ça ?
Pas totalement, en fait. C'est pas chaque épisode, mais globalement. Disons que là, si vous voyez, là, par exemple, vous avez beaucoup critiqué le fait que le premier épisode soit sur lui et le deuxième soit sur elle. Moi, j'avais pas mal aimé parce que je trouvais ça, justement, assez intriguant. Et en fait, ça s'explique beaucoup plus une fois que t'es dans la psyché, parce qu'une fois que t'es dans la psyché, en fait, le truc, c'est qu'ils vont toujours... Le synopsis du truc, c'est que normalement, chacun est dans son esprit, sauf que eux vont toujours se retrouver tous les deux dans le même esprit, en fait. Et c'est assez curieux, donc ça propose un mélange des genres, mais toujours d'un angle différent. C'est-à-dire qu'elle a vécu ce moment-là différemment que lui, il a vécu. Et en fait, l'expérience qu'ils vivent est totalement une expérience narrative. Narrativement, je trouve que c'est assez fou, parce que justement, ils passent de monde en monde, et nous, ça passe comme une lettre à la poste, je trouve.
D'accord.
Bravo.
Donc, c'est donc Maniac sur Netflix. Et si vous la voyez, vous y allez en entier. Hein, désolé.
C'est
c'est fascinant, mais c'est chiant en même temps. Oui, faut prendre du café.
Enfin, c'est une série Netflix. Hein.
C'est pour les amateurs du genre.
Pour conclure de cette partie sur les visionnages de nouvelles séries, deux phrases, mais vraiment deux phrases, j'insiste, sont manifestes. Tom, si tu veux bien.
Manifeste, donc c'est un avion qui atterrit après un vol avec des petites turbulences. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il avait disparu pendant 5 ans, mais pas pour les passagers, qui pour eux, c'est 5 minutes. Je pensais qu'il y aurait plein de mystères. En fait, il y en a Il y en a deux, enfin un c'est donc les 5 ans et le deuxième c'est les voix intérieures et sinon bah, à part ça il n'y a rien d'autre parce que ça joue mal, ça propose rien d'autre et non mais les voix intérieures mais j'en pouvais plus là, set them free, ça va, mais après voilà c'est, j'attends de voir mais pour l'instant ça propose pas d'autres pistes en fait que le pilote.
Bien.
Enfin, que la note d'intention. Donc.
C'est pas faux. Je suis assez d'accord avec toi, mais je suis bonne cliente pour l'instant.
Oui.
Même si je pense que ça va. J'ai un peu peur que ça parte sur le prêchi-prêcha, comme tu dis, Tom. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est dans tout ça. Ça va me gonfler s'il part vraiment là-dedans.
Moi, je dis que c'était les extraterrestres, mais bon, après, on ne sait
pas. Ah. Alors du coup, ce serait presque original en 2018 pour le coup.
The Event l'a fait.
Sinon, moi, je l'ai regardé avant qu'on démarre ce podcast et je suis bonne cliente. Je suis évidemment d'accord avec les pour le coup ce que dit tout ce que pointe Tom, mais je suis curieuse de voir la suite pour l'instant. Mais après,
moi, c'est la même aussi. Hein.
C'était pas pareil.
Mal écrit, c'est très mal joué, mais en fait, je les ai toutes regardées, les Lost Like et machin, là, The Event, The Flash Forward.
C'est des 4400 likes.
Ouais, en plus. Et donc, je vais le regarder, mais bon, le mystère, il faut qu'il fasse gaffe, quoi, parce que bon, si c'est les extraterrestres...
En fait, il faut que ça tienne une saison, parce que vu que c'est encore une série concept, au-delà, ça va être chiant.
D'accord. Je pense, on vous la recommande pas vraiment.
Juste pour conclure, ouais, je pense que s'il faut qu'il y ait un nouveau Lost ou un nouveau 4400, enfin j'en sais rien, une série à concept, faut plus que ça soit sur un network, faut que ça soit sur le câble. Voilà. Bon.
Et ça tombe bien parce que Netflix va commander un truc comme ça maintenant.
Super. Ah. On a hâte de voir ça et d'en voir que 3 épisodes. C'est donc manifeste, hein, et donc on peut pas dire qu'on recommande vraiment, mais voilà, si vous avez un peu de temps à perdre, apparemment c'est pas mal. Pour occuper le temps. Alors en plus des nouveautés, certaines séries sont aussi revenues. Alors on en a choisi que deux, hein, puisque voilà, le reste viendra après. On a BoJack pour les séries Netflix, ce genre de choses. Voilà, on va pas parler de tout Jack. Ça. Oui, Stéphane, t'en fais pas, on en parlera. Aujourd'hui, on va parler de American Horror Story et Atypical. Alors, je vous propose de commencer par Atypical.
Oui.
Tom, si tu penses que c'est utile de rappeler un peu juste le pitch de la série.
Alors, c'est l'histoire de Sam, un autiste de 18 ans et de sa famille. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et alors ?
Bien résumé.
Ah là, c'était encore très beau cette saison 2. C'est 2 épisodes de plus, je crois que c'était 10 au lieu de 8.
Ouais.
C'est encore très juste, c'est touchant, c'est l'acteur qui joue Sam, bon j'ai oublié son nom, mais il est...
Kerr Gilchrist.
Voilà, il est absolument, enfin il est fabuleux. Ma petite chouchoute, Bridget Lundy Payne qui joue Kazé, donc Newton, et voilà, elle c'est...
La sœur,
elle est magnifique, enfin c'est touchante au possible. Alors moi qui ai du mal à m'identifier à des personnages féminins, depuis que je regarde la série, là je trouve que... Ah, il y a peut-être quelque chose. Michael Rapaport est plutôt bien, supportable.
Ce qui est déjà beaucoup.
C'est beaucoup déjà. Demandé, voilà. Il est supportable. Mais... Par contre, petite réserve sur Jennifer Jason Leigh qui en fait un peu trop. Enfin, un personnage qui en fait un peu trop. Ah. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Mais saison 2, très bien. Juste petit bémol, c'est que les intrigues auraient pu être un peu plus poussées, même faire plus de 10 épisodes, ça aurait été très bien.
C'est exactement ce que je te rejoins là-dessus.
On résout les trucs très facilement.
Trop facile, trop facilement même.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et surtout, moi, j'ai trouvé, c'est super bien. Attention, là, ce que Tom a dit, voilà, c'est vraiment des toutes petites critiques. Hein, c'est vraiment des imperfections.
Ah, ouais, okay.
Mais en tout cas, ce qu'a dit Tom, avant Stéphane, moi, j'ai eu aussi une petite réserve sur le fait que c'est un tout petit peu répétitif. J'ai trouvé que, je sais pas si ça lui fait beaucoup de bien justement d'avoir 10 épisodes, parce que dans l'aspect un petit peu, le problème de l'épisode, la résolution à la fin, bon déjà les épisodes sont pas assez longs, ce qui fait que ça se résout un peu facilement, c'est vrai, et surtout j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un schéma d'épisodes que j'avais pas tellement vu dans la première saison. Alors il y a un côté voilà comme ça un peu automatique qui m'a dérangé par rapport à la première, mais enfin, au-delà de ça, c'est toujours d'une pertinence très rare. C'est d'une douceur invraisemblable. Mais vraiment, c'est invraisemblable comme c'est. Enfin, il y a très peu de séries qui arrivent à faire ça. Voilà, on peut toujours citer des teasers, ce genre de choses. On cite toujours les mêmes séries, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, c'est vrai que non seulement c'est pertinent, mais en plus, voilà, on est vraiment dedans et c'est jamais dur, alors que ça parle de sujets quand même difficiles. Et c'est toujours très drôle, vraiment, la manière qu'a Sam de prendre le premier degré. On se moque jamais de lui, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on se moque jamais de lui, on rigole vraiment. La nuance, c'est pas facile à attraper, mais on rigole de ce qu'il dit, mais c'est pas du personnage qu'on se moque, c'est plus voilà, de l'absurdité de la situation quand il répond un peu en décalé. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un humour comme ça, très subtil, très difficile à cerner. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est quand même une série d'une grande qualité. Et voilà, enfin, on dit toujours un peu du mal ici des séries Netflix, et là, je trouve que pour le coup... c'est une réussite. Mais là, moi, j'en reviens pas.
Surtout, il y a une petite limite, c'est que c'est très simple comme série. Des fois, ça frôle le léger, donc ça peut être un défaut. Des fois, simpliste. Ça peut être trop léger. Ouais. Mais sur certains épisodes, surtout, parce que je pense que il y a des épisodes qui sont écrits donc par la créatrice qui est Robia Rachid. Ils sont très très juste, quand celle qui écrit, elle comprend totalement sa série, son univers, ses personnages. Il y a toujours des choses magnifiques. Quand c'est les autres, tu sens qu'il y a un peu trop de légèreté. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas un défaut majeur.
C'est ça, hein, voilà. Mais... C'est comme je disais tout à l'heure, c'est des imperfections. Hein. Ni toi, ni moi n'en disons vraiment du mal. Hein.
Oui. Ouais. Mais après, il y a un rajout de personnages secondaires qui était pas mal. Il y a d'autres personnages secondaires qui sont arrivés, comme la conseillère d'éducation par
Wilson. C'est la plus belle idée de la saison 2. C'est, et en plus, ils ont donc, parce que elle s'était pris quand même du backlash après la saison 1 parce que Kerr Gilchrist n'est pas autiste. Donc là, ils ont embauché quand même quelques acteurs autistes, et avec Cassie Wilson là qui joue la conseillère d'orientation, et donc elle a un petit groupe avec des autistes, et je trouve que c'est dommage, en fait, ils les ont fait venir, mais c'est trop peu exploité. Et...
Oui, c'est quand même des très beaux moments en général.
Ah, c'est un peu frustrant. Je crois que c'est les scènes que j'ai préférées de toute la saison 2.
Ouais,
c'est
je suis d'accord.
Quand ils se retrouvent avec d'autres personnes autistes et qu'ensemble, ils discutent de la vie, de leurs attentes, de l'avenir. Enfin, c'est très beau et c'est très émouvant. Et donc, ce qui me fait venir à d'autres... point positif, mais donc c'est ça a été recentré sur Sam, je trouve, parce que la saison 1 était beaucoup sur les parents et sur l'impact que l'autisme avait eu sur la famille, et alors que là dans la saison 2 je trouve que ça s'est recentré dessus en écartant un peu l'histoire de tromperie et tout ça machin qui est juste
ça se discute mais admettons
et je trouve que Casey a pris un peu plus mais en fait ils ont mis les deux enfants en avant et je trouve qu'il y a plus, comme disait Tom, il y a plus d'émotions. Je ne sais pas si c'est Robbie Rachid, comme tu disais, qui tous les épisodes lesquels m'ont le plus touché, qui les a écrits, mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y en a certains où, en effet, il y a... Ben, ça te donne envie de chialer comme... voilà, quoi. Et parce que c'est émouvant, quoi. C'est très, très beau. Il y a tout ce que fait Sam et tout ce qu'arrive à accomplir Sam tout au long de l'année ou des 6 mois c'est 6 mois, enfin bon bref, que la saison 2 explore, et franchement c'est plutôt pas mal, quoi.
Et le couple Evan Kazé, enfin moi je suis shipper à fond, quoi. Graham Rogers là qui joue Evan,
Ah ouais, mais là Tom, va falloir faire un peu ton deuil, hein.
Non mais clairement non mais cette fin de saison,
oui,
j'ai trouvé ça un peu... Voilà, c'est je sais pas, c'est... Mais bon, tant mieux pour Evan, hein, parce que voilà.
Faites gaffe au spoil, parce que moi je l'ai pas vu. Hein.
Oui, on va pas.
Mais, c'est vrai. Evan et Kazé, enfin voilà, ils sont d'une. En saison 1, ils n'avaient aucun souci, ils n'avaient aucun problème, c'était genre le couple parfait, ils s'engueulaient jamais un mot plus haut que l'autre et tout. Bon, là, ils ont des petits soucis.
Mais c'est toujours, ils ont une communication et une aisance l'un avec l'autre qui est incroyable, c'est vrai.
Ils sont tellement choux.
Voilà, bon bah cette émission aura permis de révéler que Tom peut parfois être un shipper.
Ah oui, bah quand les couples sont déjà faits, oui.
Jimmy Pam.
Oui,
voilà.
Jimmy Pam.
Bientôt, il va nous proposer Mulder et Scully en mariage. Enfin.
Et Bridget Lundy Payne, magnifique. Voilà. On veut la voir plus souvent.
Donc voilà, c'était Atypical, donc sur Netflix, et on vous recommande évidemment si vous n'avez pas déjà regardé la saison 1 et donc cette nouvelle saison qui est d'une qualité voilà, tout à fait comparable. Enfin, American Horror Story. Alors, aimer, détester, elle revient. Pour une saison donc Apocalypse qui se vend en tout cas comme un crossover entre la saison 1 et la saison 3. Donc ce qui est le cas. Voilà, sans en dire trop, mais c'est vrai que c'est devenu le cas assez récemment. Stéphane, je vais te donner la parole en tant que détracteur en chef de Ryan Murphy pour savoir un peu ce que tu en penses.
Mais avant, je propose à... mon Dieu, mais j'aime pas ça.
Voilà. Voilà, mais avant, je propose à Tom de nous faire voilà, un petit brief pour...
C'est la fin du monde. C'est la fin du monde et ils sont dans un bunker et il y a plein de gens dont on sont contre-fous mais royal.
Voilà. Et ça, c'est... Bon, on demandait un résumé objectif, on l'a pas vu, c'est pas.
Et non, mais on s'en fout, quoi. Putain, cette saison, bah, elle est chiante.
Stéphane, dis-nous.
De quoi ?
Bah, est-ce que c'est bien ? Est-ce que t'as mangé ce midi ?
Non, alors je vais faire gaffe, je vais tempérer mes attentes. Parce que j'ai trouvé le premier épisode vraiment génial. Le monde post-apocalyptique, c'est la première fois qu'il le fait, donc c'est complètement frais, c'est complètement innovant, donc pour l'instant, c'est très bien. Pour moi, ils font un crossover des meilleures saisons de la série, donc ça me va très bien, j'adore les
personnes. Virez-le. Oh.
Mais non, mais Coven, mais putain, mais vous, il faut les mettre.
Surveille ton langage.
Ah, pas oui, pardon. Et donc, avec. Bon, en tout sens, si c'est un crossover, donc il va forcément avoir des retours des anciens personnages. Donc voilà. Donc moi, je ne vis que pour ça. Hein, voilà, je regarde Apocalypse juste pour ça.
Surtout pour Benny Britton. On peut-être, c'est possible. Hein, je sais pas.
En plus, on a vu une photo, je crois. De. Oui. Non, mais en fait, il va y avoir tellement de personnages qui vont revenir. Mais bon, enfin, moi, c'est surtout les sorcières qui m'intéressent. Mais bon, après, voilà.
C'est le Avengers d'American Horror Story.
C'est ça. Mais je t'en perds parce que le deuxième épisode, j'ai trouvé vraiment pas terrible, il se passait rien, c'était surtout du blabla pas très intéressant, et le troisième je l'ai trouvé mitigé aussi, donc je sais pas trop sur quelle pièce danser, toujours avec American Horror Story, bon de toute façon les saisons, plus ça va, moins c'est bien, donc voilà. Donc je honnêtement je jugerai vraiment à la fin, à la fin du deuxième épisode, mais pour l'instant j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va rester sur là-dessus, mais je pense que ça sera une bonne année pour Ryan Murphy après pause. Voilà.
D'accord. Bon, bah c'est bien, cette année aura permis à Stéphane de dire du bien de Ryan Murphy et de nous réconcilier parce que c'était difficile entre nous ces derniers temps. C'était vraiment difficile.
Parce que je déteste 911.
Ah, oui, alors, bon, Tom, dis-nous.
Non, bon. Que dire ? Non, j'ai. Comme toujours. Depuis 3 voire 4 saisons, les débuts sont un peu poussifs. On ne sait pas trop où ça va. Après, c'est très bien pendant 3 à 4 épisodes. Et après, c'est pas conclu dans les saisons. Ouais, donc bon, c'est pas ma saison préférée, Coven. Hein. Murder House, c'est bien, mais sans plus. Pour l'instant, il n'y a aucune piste vraiment qui m'excite. Je trouve que quand on ne sait pas trop quoi raconter, on met Evan Peters dans une scène et puis voilà. donc au bout d'un moment, voilà, tous les gimmicks de la série reviennent. Voilà, moi, je ne suis pas très emballé. Je regarderai parce que c'est toujours intriguant. Mais voilà, je trouve que formellement parlant, artistiquement parlant, c'est moins bien qu'avant. Les personnages, cette troisième génération d'acteurs, moi, elle m'insupporte un peu. Heureusement que les anciens reviennent un petit peu. Peut-être que pour un épisode, a priori, mais d'après ce que j'ai vu.
A priori, oui, ce ne sera pas tout le temps.
Bah, oui, de toute façon, on va voir. Le crossover commence assez tard pour, en fait, donc je pense que ça ne va pas être le centre de la série.
C'est faux, parce qu'il commence directement au premier épisode. Hein.
Oui, mais je veux dire, formellement, ça commence vraiment qu'au troisième.
Il faut vraiment être attentif à toutes les anciennes saisons pour savoir.
Voilà, en termes de récit, ça commence vraiment en troisième pour moi. Sinon, il fait des petits indices qu'il faut repérer ici et là.
Oui. En gros, dans la série, il n'y a que la saison 2 qui reste au top pour l'instant. Si
non, 1, 2, 3. Non, alors justement. Ah. Bon, alors, si, alors,
moi, j'ai vu que les trois premières saisons.
Je suis peut-être connu par nos auditeurs comme étant le fanboy numéro 1 de Ryan Murphy. Donc, alors, comment dire ? Bon déjà non, il n'y a pas que la deuxième saison qui vaut le coup. Moi, je conseille déjà la première et la septième. Je trouve que la septième est aussi très bien. Oui, je sais. Mais donc voilà, alors sur cette saison-là, pour l'instant, je suis un petit peu perplexe. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça manque d'horreur, déjà. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais je trouve qu'il y a... Enfin, ça fait pas tellement peur. Il y a pas de propos politiques vraiment effrayants comme dans la saison 7, ce qui fait que bah, là, on doit se contenter d'une... Bon, évidemment, un attentat nucléaire, évidemment que c'est effrayant. Mais je dirais que le traitement qui vient de l'effet, c'est tellement banal aujourd'hui qu'on voit ça dans les séries que... Bah, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Les destructions massives, on en voit vraiment partout. Au-delà de ça, je trouve que c'est toujours très bien réalisé. Voilà, on sent vraiment la patte Ryan Murphy. Il y a toujours ses angles de caméra improbables. Il y a toujours voilà, bah, Evan Peters, ouais, qui est toujours incroyable. Du point de vue du récit, je suis un peu perplexe parce que voilà, le premier et le deuxième épisode, j'avais trouvé ça pas mal, mais je dirais que ça manque un peu de puissance, quoi. C'est vraiment beaucoup de blabla, surtout le deuxième.
Ah, et le deuxième, je savais pas. Horrible là-dessus.
Je trouve pas que ce soit horrible, mais je trouve que voilà, je restais un peu sur ma faim. J'avais un peu l'impression que c'était la suite de production, alors que voilà, au bout du premier épisode, c'est bon, quoi. T'as posé ton univers et c'est bon. J'ai trouvé le troisième épisode vachement bien. J'ai trouvé que voilà, bon, c'est le dernier, il me semble, en date, hein, sauf si je me trompe. Oui. Je sais plus si c'est 3 ou 4, c'est le troisième. Ah oui. Et voilà, bon, là, il y a vraiment des séquences horrifiques. Il y a vraiment, comme je l'ai dit quand j'ai vu la saison, il y a vraiment du vomi et du sang.
Une orgie de vomi.
Enfin, t'as l'impression, je sais plus dans quel film il y avait ça. Voilà, t'as l'impression d'aller de la séquence de Pitch Perfect, là, avec où elle gerbe sur le sol pendant des heures. Là, c'est un peu
dans
ça.
Dans Family Guy, il y a un épisode à vomir.
Ouais, il y a aussi ça. Et je trouve que, voilà, bon, je suis pas un fasciné. Bon, c'est une phrase qui fonctionnera pas, c'est je suis pas un fasciné du vomi. Mais bon, bref. Voilà, je regarde pas la série pour ça, mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose de très organique et quelque chose voilà, de très horrifique que j'attendais pas mal et qui est revenu. Après, sur les trois épisodes, il y a une imagerie qui est superbe. La caravane avec les chevaux, le type avec son masque à gaz et tout ça. Il y a des symboles.
C'est dégueulasse.
Ah non, je suis pas d'accord. Il y a des symboles là.
C'est fade, c'est noir, c'est orange, c'est dégueulasse.
Ah non, je suis pas d'accord. Moi, ça m'évoque vraiment l'American Horror Story des débuts avec l'homme latex et tout ça. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment des images qui restent en tête. Après, j'attends de savoir où ça va. Le troisième épisode commençait vraiment, voilà, comme je disais textuellement dans le récit, le crossover, en tout cas.
Surprise, bitch.
Tu sauras où ça ira quand tu sauras que ça ira pas où ça ira.
Mon Dieu, la police.
Bah, je vois un peu ce que tu. Le pire, c'est que je vois un peu ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai que là, il y a une direction, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 3, il y a une direction. Alors, on va voir où il va aller. Il va sans doute pas aller dans cette direction parce qu'on le connaît. Il y a toujours des fausses pistes. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, voilà, je trouve pas ça naze du tout. Je trouve que c'est très bien réalisé et je trouve que c'est toujours sympathique à garder. Ce sera sans doute pas la meilleure saison. De toute façon, pour moi, la meilleure, c'est la première. Donc, voilà, c'est arrivé.
Non.
C'est la deuxième.
Non, la deuxième.
J'aime beaucoup la deuxième, hein, mais je trouve que la première, ça me faisait vraiment plus peur. Mais ça, c'est d'un point de vue.
La 4, parce que Eris n'a pas vu.
Les maisons hantées, ça fait plus peur.
La 4, je vais la regarder de toute façon.
Ah, parce qu'elle est nulle, Freak Show.
Tu vas
l'univers du Freak Show, ça m'intéresse.
Donc, voilà. Tout ça pour dire que je recommande toujours American Horror Story. Et puis, c'est vraiment l'année Murphy, de toute façon, là, avec Pose, qui a eu un succès incroyable. Et ça me fait vraiment plaisir. Et 911, que voilà, d'aucuns ne recommanderont pas. Moi, je trouve ça très fun. Voilà.
Ça va être annulé au bout de la saison 2.
On en parlera.
C'est rigolo, on en reparlera. Donc voilà, bah, c'est toujours du Murphy, mais voilà, c'est peut-être un petit peu désintéressé de ça pour faire ces deux autres séries qu'il a vraiment soignées. C'est possible.
Bravo.
Okay. Tout ça pour dire que bah voilà, c'est la fin de notre épisode consacré au visionnage. Oh. Oui, mais on reviendra bientôt. Bah merci Iris, Tom, Stéphane et Alan d'avoir participé à cet épisode.
Merci à toi Adrien.
Oh merci.
Ah, merci à toi.
Merci de votre merci. Et
donc, merci qu'on respecte vraiment cette émission.
Ah, pardon, Alan veut parler après avoir rangé son papier.
Je disais c'était tellement c'est tu es Adrien, tu es tellement le mec qu'on respecte dans cette émission, c'est vraiment un plaisir.
Je sais. C'est incroyable. Merci Alan de ta bienveillance. Donc voilà tout ça pour dire merci toujours à nos auditeurs d'être fidèles et nombreux.
Oui.
Et puis on se retrouve très bientôt.
Et on se retrouve sur Twitter @SarahLcozier, voilà, sur Facebook. Ça. N'oubliez pas.
À très bientôt.